qu'on prenne la Bible dans Philippiens chapitre 3, verset 8 et suivant. Donc Philippiens chapitre 3, verset 8 et suivant. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Et j'aimerais souligner l'importance de cette mission que nous avons, à la fois de connaître Dieu, à la fois de le faire connaître. C'est tout l'enjeu de l'Église, c'est tout l'enjeu de nos écoles. Et puis en même temps, il y a cet enjeu bien de lui ressembler. Il y a un prédicateur anglais du 19e siècle qui s'appelait Spurgeon, et il disait ceci: voudriez-vous oublier tous vos chagrins, abandonner tous vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu, comme dans une mer approfondie. Perdez-vous dans son immensité, vous en sortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne même de Dieu. Et puis vous savez, il y a un des pères de l'Église, Saint Augustin, qui disait: Seigneur, ma prière, c'est que je puisse te connaître et que je puisse me connaître. Alors je me suis toujours demandé, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils veulent se connaître? Connaître Dieu, c'est le plus important. Pourquoi se connaître? Mais déjà dans l'histoire de l'Église, se connaître, c'était tout important que connaître Dieu. Et puis, on fête le 500e anniversaire de Calvin. Si vous lisez, il a écrit à Bâle, un jeune homme à 25 ans qui écrit un texte qui allait changer l'Europe. 25 ans. Et ça commence comme ça, en disant, j'aimerais citer, dans ce sujet de la connaissance de Dieu. Là aussi, c'est quelque chose d'étonnant. On se dit, mais pourquoi, au secours, pourquoi est-ce qu'il introduit comme ça ce sujet de la connaissance de Dieu? Alors j'aimerais vous le lire. Il dit ceci, donc, voilà. Toute la somme presque de notre sagesse, laquelle a tout compté, mérite d'être réputée vraie et entière sagesse, est située en deux parties. C'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous se connaisse. Ça commence comme ça. Qu'en connaissant Dieu, chacun de nous se connaisse. Alors réfléchissez un peu, quel est ce rapport entre la connaissance de Dieu et la connaissance de qui on est? Et j'aimerais rappeler ce qu'on a déjà souligné cette année, ces espions qui sont sortis pour voir le pays de Canaan, et 12 espions, et puis, il y en a seulement 2 qui connaissaient et Dieu et eux-mêmes. Et c'est ceux-là qui sont rentrés. Il y en a 10 qui connaissaient Dieu, mais qui ne se connaissaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qui ils étaient en Dieu. Et ils ne sont pas rentrés dans la terre de Canaan. Et donc la connaissance de Dieu, c'est lié avec la connaissance de qui on est dans le Seigneur. C'est pourquoi Saint Augustin, Calvin, mettaient un tel accent sur cette notion de l'importance de se connaître. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13, mais on le résume, c'est Ésaïe qui a une vision, la mort du roi Ozias, il a une vision du ciel. Et il voit Dieu, il voit les anges, les séraphins, et puis qui se prosterne et qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Donc une vision de Dieu. Conséquence de la vision de Dieu, première conséquence, il se sent pécheur, il se sent sale, il se connaît lui-même. Se connaît lui-même en tant que pécheur. Et puis ensuite, il y a cet ange qui vient, qui touche sa lèvre et qui dit « Voilà, sois purifié, tes lèvres maintenant sont pures, tu es pur. » Avec cette braise, ça nous parle de l'expiation, ça nous parle du sacrifice de Jésus, ça nous parle du pardon de Dieu. Et là, il s'est connu lui-même en tant que gracié. Vous voyez, on se connaît en tant que pécheur, on se connaît en tant que gracié. Quelle est la conséquence ? Seigneur, Dieu qui dit, qui c'est que je vais envoyer ? Et Esaïe qui dit, Seigneur, envoie-moi. Première étape, une vision de Dieu, connaître Dieu. Et expérience de Dieu. Deuxième étape, expérience de sa faiblesse, de son état de péché, d'absolue nécessité que Dieu agisse dans nos vies et nous recouvre. Troisième étape, le pardon de Dieu. Et je me connais en tant que justifié, que gracié. Et l'étape finale, c'est immédiatement, Seigneur, envoie-moi. Et quelqu'un qui ne peut pas dire, Seigneur, envoie-moi, peut-être qu'il ne se connaît pas ou qu'il ne connaît pas Dieu. Vous voyez, il y a un peu un problème. Mais tout est important. Connaître Dieu, se connaître soi-même, pécheur, gracié. Et ensuite, il y a cet envoi. Donc la connaissance de Dieu, quelque chose de tellement fondamental pour nos vies, pour tous. Dans Jean chapitre 17, verset 26, Jésus qui dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Le but de la connaissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour pour les autres et c'est le « Envoie-moi, Seigneur ». C'est toujours ça. Plus tu connais Dieu, plus tu as envie d'être envoyé, parce que plus l'amour de Dieu est en toi. Donc je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est pour ça, une véritable connaissance de Dieu, ça va être toujours un amour pour l'Église, un amour pour les frères et sœurs, un amour pour les perdus. Et une véritable connaissance de Dieu n'est jamais déconnectée de l'amour pour son corps. Parce que sinon, ce n'est pas une connaissance de Dieu. C'est tout ce que vous voulez, c'est rien de ça. Parce que Dieu, il se manifeste dans son corps, qui est l'Église. Et grand E, hein, l'Église grand E. Mais l'Église grand E, c'est aussi l'Église locale. Donc voilà, il n'y a pas de connaissance de Dieu verticale sans un approfondissement de la connaissance des uns des autres dans le Seigneur. Et en même temps, plus on apprend à se connaître les uns les autres dans le Christ, à discerner le Christ chez les uns et chez les autres, et plus on apprend à connaître Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment la croix, hein, cette dimension horizontale, cette dimension verticale. Jean chapitre 10, verset 14-15. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Voilà, c'est clair. Il nous connaît. C'est lui qui nous connaît le premier. Hein, il t'a connu avant que tu naisses. Mais cette connaissance que Dieu a de toi, il a tout fait pour que toi, tu puisses l'avoir de lui. Cette connaissance qu'il a de toi, il t'a tout donné pour que tu puisses l'avoir de lui. L'esprit de Dieu qu'il t'a donné, c'est un esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est pourquoi cet esprit qui est en toi, il veut te pousser à mieux connaître Dieu. Et dans ce temps de juillet qui vient, où pour plusieurs, eh bien, ça sera bon, il y a des mariages, il y a des vacances, etc. C'est un temps propice aussi pour apprendre à mieux connaître le Seigneur. Osée chapitre 6, verset 6, c'est Dieu qui dit « Moi j'aime la miséricorde et non pas les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les sacrifices. » Dieu aime qu'on le connaisse plus que tout. C'est pour ça qu'il veut qu'on ait des écoles d'ailleurs, hein, entre parenthèses. C'est pour ça, parce que c'est le but de Dieu, se faire connaître. Alors il y a des gens qui pensent qu'on le connaît que... de façon spirituelle, mais il veut qu'on le connaisse dans tout le domaine. Il veut que je me connaisse moi, qu'on se connaisse soi-même avec son regard à lui. Je connais Dieu et par ricochet, je me connais moi-même. J'ai son regard sur moi, je sais qui je suis. Pareil pour tout le champ de la science et de la connaissance. Je connais Dieu et je reçois son regard sur tous les domaines de la création. Connaître Dieu, connaître cette création, se connaître soi-même, tel est le projet de Dieu pour pouvoir nous envoyer et faire de nous vraiment des disciples qui aient le parfum de Christ. Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Cette connaissance intime, hein, c'est ça qui est le but, l'objectif du Seigneur. Au Maroc, avec Manuela, lorsque nous étions au Maroc, il y avait une jeune fille dans cet appartement caché dans Marrakech où il y avait une réunion, c'est-à-dire c'est un culte qui dure toute l'après-midi du dimanche. Il y avait une jeune fille, 15 jours avant qu'on vienne, elle était voilée, il n'y avait que les yeux. Et elle a rencontré le Seigneur Jésus. Et le voile a été déchiré dans tous les sens du terme. Et cette jeune fille, elle était là, dans la présence de Dieu, en train d'être abondamment visitée par le Seigneur. Et j'avais du mal à réaliser que 15 jours avant, elle avait ce voile complet. Quand Dieu se révèle à nous, il se dévoile. Il arrache les voiles de nos cœurs. Et moi, je remarque que régulièrement, il y en a un qui veut retisser. Il veut retisser, c'est son job. Alors on a des problèmes, on a des soucis, tout ça, et il retisse le truc, quoi. Hein. Il est toujours à tisser quelque chose. Et chaque fois, il nous faut rentrer dans cette présence, et à chaque fois, il y a une déchirure nouvelle. On a toujours besoin du voile déchiré, régulièrement. Toujours besoin. Et ça, c'est vraiment important. Donc actuellement, il y a le débat politique, est-ce qu'on veut accepter les voiles? Moi, je dirais, dans cette église, on ne veut pas de voile, d'accord? C'est clair? Et dans tous les sens du terme, mesdames, hein? C'était la première question, jeune converti. J'étais avec Manuela à Lyon. Et puis, on va dans une église, je tairai le nom. Et puis, il y avait quelqu'un devant l'église. Vous aviez les Bibles pour connaître Dieu et vous avez un stock de voile. Alors, on était là et on rentre et le gars, il prenait le voile, il donnait à Manuela. Je lui dis, mais tu fais quoi, toi, là? Tu fais quoi? Et puis, il me dit, oui, il faut des voiles. Je lui dis, non, moi, je suis marié, c'est moi le chef, pas de voile. Alors là, il y a un problème théologique. Un problème théologique. Dieu est mort pour briser le voile. Tout voile. Et ce voile, c'est le voile de l'incrédulité, c'est le voile de tout ce que vous voulez. Mais vraiment, le Seigneur, quand j'ai vu cette jeune fille libérée de ce joug, c'était extraordinaire. Et c'est là que le responsable vient me voir. Il me dit, tu sais, il y a quelques années, il y a des Français, des pasteurs, des missionnaires français qui ont prêché de mettre ce voile sur la tête des femmes. Elles sortaient du joug, on voulait les mettre encore sur un autre joug. Enfin voilà, ça m'énerve, c'est un sujet qui me... Parce que c'est quelque chose derrière, il y a un tel esprit religieux derrière, c'est la cata. Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ce qui fait le plus de peine au cœur de Dieu, c'est quand on se fabrique nos petites idées de qui est Dieu. Régulièrement, chaque fois que je vois, il y a parfois des gens qui sont dans de grosses difficultés, de gros problèmes. Le vrai problème, il arrive quand les gens ils commencent à dire, ouais, mais de toute façon, Dieu, il voit pas ma souffrance. Dieu, il voit pas ceci. Si Dieu vraiment était bon, vous voyez, quand on commence comme ça, c'est la pente rapide. Rapide. Dieu te demande pas tes impressions. Si Dieu ceci, si Dieu cela. Dieu dit, je suis le Dieu de cette parole. Je suis le Dieu qui s'est révélé une fois. Et tu n'as pas à te faire tes petites images. Ces petits films. On fait des petits films sur Dieu. Hein. On se fait des petits trucs. Tiens, il serait comme ça, il serait comme ci. Il est comme sa parole dit qu'il est. Et sa parole me dit que Dieu est bon. Et que ça ne change pas. Et que sa bonté durera toujours. Et que quand il nous délivre, quand il nous a dans sa main, il n'y a personne qui va nous ravir de sa main. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui veut se faire connaître encore plus à chacun de nous. La connaissance que nous avons de Dieu, mes amis, elle déterminera la façon décisive dont nous allons mener nos vies. Voilà. Alors, simplement, je rabâche un peu, c'est l'âge, vous allez me dire. Mais bon, c'est, voyez, si on croit que la connaissance de Dieu, la conséquence, c'est pas la connaissance de tout le monde avec le regard de Dieu, alors on n'a pas une véritable connaissance de Dieu. Et si on croit que Dieu veut me donner cette connaissance de qui il est et de ce qu'il a fait dans cette terre et de ce qui est, quelle est cette création, alors on ne peut pas faire autre chose que dire on a besoin d'école pour nos enfants. D'accord ? C'est ça. C'est, si on a une fausse connaissance de Dieu, on va avoir une fausse pratique de l'évangile. Une fausse pratique. On va s'investir dans des choses qui ne valent pas la peine. Donc c'est tellement concret cette histoire de connaissance de Dieu. Voilà. Dieu, voilà. Dieu est le Seigneur qui gouverne tout l'univers. Il gouverne sa création. Il n'est pas le Dieu qui un jour a lancé les choses et s'en occupe plus un jour. Donc il est le Dieu qui gouverne tout. Il est le Dieu qui est le Dieu qui nous a dit, voilà, cette création, elle est à moi. Elle parle de moi. Si tu lis quelque chose dans cette création, tu vas lire quelque chose de moi. Les écoles sont appelées à rendre les enfants aptes à lire le message de Dieu dans le domaine de la création. Parce que cette création, elle parle le langage de Dieu. Et il y a des hommes un jour, des philosophes qui nous ont dit, la création ne parle pas le langage de Dieu, la création n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu, alors on a fait des églises où on va apprendre à connaître Dieu, et on a fait des écoles où on va apprendre à connaître le monde. Et c'est comme ça qu'on est devenu complètement schizophrène. Et c'est comme ça que Dieu dit, mais ta connaissance que tu as de moi, elle n'est pas juste, mon gars. Elle n'est pas juste. La Bible me dit, la connaissance de Dieu va remplir la terre. Il n'y a aucun domaine qui n'est pas touché par la connaissance de Dieu. Qui c'est qui prétend qu'on n'a pas à apprendre à connaître Dieu dans un domaine de la création? Quel est le fou qui nous a pas autorisé à dire que la connaissance de Dieu a quelque chose à voir avec chaque partie de la culture et chaque partie du monde. Et nous, nous avons suivi tellement souvent des insensés et des fous qui nous ont dit, voilà, il y a deux mondes. Il y a le monde et puis il y a le monde de Dieu. Voilà. Donc la connaissance de Dieu, elle nous apprend à unifier tout cela. La souveraineté de Dieu. C'est comme Salomon, rappelez-vous, qui parle le langage de Dieu sur les arbres et sur les poissons. La sagesse de Dieu. Alors les gens venaient du monde entier, rappelez-vous, c'est mon dada ça aussi. Ils venaient du monde entier pour écouter ce que Salomon il avait à dire sur les arbres et sur les poissons. Ça c'est le discours de Dieu. Il est temps qu'on puisse avoir manifesté une connaissance de Dieu. Moi je prie que, on n'est pas encore dans cette maturité totale, mais je prie que l'onction d'un Salomon, elle commence à venir dans nos écoles, dans nos universités. Imaginez un peu la connaissance de Dieu qui se révèle dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine spi, voyez, parce que tout parle de Dieu, tout parle de sa gloire. Alors, ce qui est beau, c'est que, regardez dans Matthieu 25, par exemple, vous avez les talents qui sont donnés aux uns aux autres, et il y en a un qui n'en avait reçu qu'un, rappelez-vous, et il a dit, celui qui avait reçu qu'un talent, il vint aussi et dit, maître, je te connaissais, tu parles, écoutez, tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, recueillant où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Pourquoi est-ce qu'il l'a caché? Parce qu'il a une fausse connaissance de Dieu. La fausse connaissance de Dieu, ça amène à ce qu'on ait des actions dans la vie de tous les jours qui sont répréhensibles. Et on peut sincèrement se planter. Voyez, il croyait que c'était un maître dur, que c'était un maître... Voilà. Il croyait le connaître. Alors attention aussi à ne pas tomber dans cette prétention de croire que l'on connaît tout de lui, même si on avance de gloire en gloire. Transformons nos connaissances sur Dieu en connaissances de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, vous avez quatre images qui nous parlent de la connaissance de Dieu. Et ces quatre images, elles me touchent beaucoup, parce qu'elles nous montrent quel type de connaissance c'est que Dieu veut qu'on ait de lui. Regardez, première image, il veut qu'on le connaisse comme un fils connaît son père. Ensuite, il veut qu'on le connaisse comme une femme connaît son mari. Il veut qu'on le connaisse comme un sujet connaît son roi. Et il veut qu'on le connaisse comme une brebis connaît son berger. Et quand je vois toutes ces images bibliques, je remarque un point commun, c'est que dans ces quatre images, elles indiquent toutes une relation dans laquelle, moi qui veux connaître, je peux me reposer sur celui qui est à connaître. Vous voyez, la femme va se reposer sur son mari. le sujet va se reposer sur son roi. Il y a une relation de confiance qui est là, voyez. C'est comme, il y a des gens qui disent, moi je connais un tel, mais tu ne peux pas connaître une personne si elle ne s'est pas révélée à toi, si elle ne s'est pas ouverte à toi, si elle n'a pas ouvert son cœur, tu ne peux pas la connaître. Or Dieu est un Dieu qui s'est ouvert, c'est un Dieu qui a fait connaître son cœur, et donc c'est pour ça qu'on peut le connaître. Alors, ça ne sera jamais une connaissance totale, hein, mais on peut le connaître comme ça. Et moi, je relève aussi une chose, c'est que la connaissance de Dieu, c'est une connaissance dans la marche. Dans la marche. Regardez par exemple l'histoire d'Abraham. Rappelez-vous, quand June Lewis était venue nous rencontrer, ça date déjà d'un moment, qu'elle avait enseigné sur les noms de Dieu. Abraham, il n'a pas connu Dieu d'un coup comme ça tout de suite. Il a marché avec la révélation qu'il avait. Alors, quitte ton pays, ta patrie, tout ça. Mais qui es-tu, Seigneur? Il n'y avait pas tellement de détails. Mais il a obéi à une parole. Il a obéi. Et dans la marche avec Dieu, la connaissance de Dieu est venue. Tu ne connaîtras jamais Dieu si tu restes à stagner dans un domaine de ta vie sans une marche avec Dieu, une marche de service, une marche avec le Seigneur. C'est dans la marche que Dieu révèle qui il est. Regardez le fameux verset qui dit... ta parole est une lumière sur mon sentier. Il n'est pas dit sur la chaise. J'ai regardé les traductions. Ce n'est pas une lumière sur notre chaise ou dans notre lit. C'est une lumière sur le sentier. Et cette lumière de Dieu, eh bien, elle grandit au fur et à mesure que tu marches. Voilà. Et Abraham, il a marché. Et un jour, Dieu lui demande son fils. Et ce sacrifice qu'il était prêt à faire était déterminant pour qu'il ait la révélation de Dieu comme El Shaddai, celui qui va pourvoir. Donc Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Il a eu les révélations de Dieu comme El Shaddai aussi. Mais à chaque fois, c'était... Regardez bien les textes. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Les révélations de Dieu sont jamais venues facilement. Il a fallu marcher, il a fallu obéir, et parfois il a fallu perdre une partie de soi, accepter de la perdre. Et quand on a accepté de la perdre... alors on l'a retrouvé. Et c'est le grand principe biblique, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Et la connaissance de Dieu, elle vient quand on arrive à le mettre en premier, et parfois ça veut dire se mettre en second, même parfois toujours. Hein. Mais cette connaissance de Dieu, voilà, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de par étapes, c'est quelque chose qui continue à grandir. Abraham, jusqu'à tard, il a appris à marcher et à connaître le Seigneur. Alors, je vais aller assez rapidement. J'ai essayé de voir si... Oui, Daniel. Regardez Daniel. Les compagnons de Daniel, quand ils ont connu Dieu, c'était le Christ lui-même dans la fournaise hein, qui était là. Ils ne l'auraient pas connu s'il n'y avait pas eu la fournaise. Ils n'auraient pas eu une révélation de ce Jésus-Christ, déjà dans l'Ancien Testament, s'ils n'étaient pas dans ce feu. Donc parfois, vous voyez, on ne veut pas, c'est trop difficile, la pression, tout ça, on ne veut pas. Mais je crois qu'il faut accepter de dire, ben, Seigneur, tu es souverain, et ben, partout où tu me fais passer, je crois que tu es là. La Bible dit dans Romains 8, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Il n'est pas dit à côté, il n'est pas dit en dehors des problèmes, il est dit, dans ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Et la connaissance de Dieu, elle est au milieu de là où Dieu nous a placés, malgré les pressions, malgré des difficultés, c'est là que Dieu veut se faire connaître à chacun et nous embraser. Et quand il y a une véritable connaissance de Dieu, les voisins, vos entourages, eh bien, ils le sentent, ils le connaissent. Ça amène une sécurité, ça amène une stabilité, ça amène une espérance, ça amène un optimisme, ça amène quelque chose qui vient du ciel, qui est constant. Et ça, c'est la connaissance de Dieu qui le fait. Une connaissance solide, profonde, du Seigneur. Donc voilà, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Rappelez-vous que la connaissance, c'est dans la marche. La connaissance, c'est sous le soupir de Dieu. C'est ce qui fait plaisir à Dieu qu'on le connaisse. Qu'on le connaisse dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Et je termine, Jean chapitre 4, verset 22. Jésus dit à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Et nous adorons ce que nous connaissons. Et en fait, quand on connaît, plus on connaît Dieu, plus on l'adore. Plus on l'adore, plus on le connaît, etc. Et voilà, ça c'est le Dieu que nous servons. Alors que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Et moi personnellement, j'aimerais encore dire mon puissant encouragement avec nos amis américains qui sont venus nous aider. Et tout à l'heure, en priant dans la salle à côté, c'est comme un peu en cette fin d'année où c'est difficile, où il y a beaucoup de choses, tout ça, eh bien nous avons nos bras et qui sont soutenus par nos amis. Nos bras qui sont soutenus. Et ça nous permet de continuer la marche. Ça nous permet de persévérer dans la mission que Dieu nous a donnée, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de l'église. Voilà, Franck.